18 novembre 1803. Vertière, toujours vivant. Une émission d'Haïti Inter pour Haïti tout entière.
Souviens-toi, passant, quand tu vas vers le nord, que 27 000 de tes grands-parents ont parcouru, il y a 170 ans, dans la boue et la poussière, sous le soleil et sous la pluie, nus et déguenillés, ces quelques 200 kilomètres qui aboutissent à Vertières.
Ils avaient faim, ils avaient soif, ils tiraient de lourds canons, ils étaient hirsutes et sales, pieds nus, ensanglantés par les cailloux du chemin. Mais ils chantaient, et leur joie simple et fruste, leur chef la partageait.
Soldats aux diacoutes de peau de cabri, où une patate boucanée voisinait avec le rwanga protecteur, des bouts de ficelle et quelques avocats cueillis le long des haies, officiers galonnés et chamarrés, dépouilles de chefs français vaincus à Saint-Marc ou à Port-au-Prince, généraux à cheval au panache coloré, ils allaient sur cette route que tu suis aujourd'hui.
Arrête-toi, passant, et souviens-toi de ces hommes, de ces femmes, car ils avaient aussi leur cantinière, de ces enfants, car ils étaient, jeunes et vieux, à gravir le Pilboro, et qui, dès les premiers jours de novembre, contemplèrent le spectacle des plaines brumeuses et grasses, des collines ruisselantes, de ce nord mémorable, de ce corps mémorable qu'ils allaient conquérir.
Le 18 novembre, à 4 heures du matin, on claironne la Diane au camp français. Quand soudain, le général Clairvaux ouvre le feu sur le fort Bréda. À l'instant même, tous les forts du Cap tonnent et sèment la mort dans les rangs indigènes.
Le soleil levant éclaire une bataille en pleine action.
Mais avant d'en arriver à ce premier coup de canon, à ce premier boulet du général Clairvaux dans les murs du fort Bréda, Bréda, encore ce nom magique qui revient comme un thème, un leitmotiv de notre chant de peuple libre.
Toussaint Bréda, le fort Bréda, la boucle est bouclée, le cycle est accompli, le grand bond en avant est possible. Mais avant d'en arriver là, avant ce premier boulet dans les murs du fort Bréda, comment se présentait la situation à Saint-Domingue pour les Français et pour les nôtres?
L'année 1803 fut celle de l'effort final vers l'indépendance.
En janvier, Dessalines était au port de paix, confirmant le général Capois dans son commandement. La 9e demi-brigade se fère de lance de l'action héroïque. En mai, le congrès de l'Arcahaie élabore les mots d'ordre de la lutte révolutionnaire pour l'indépendance et crée le drapeau de l'unité du nouvel État. En juin, le général en chef est au camp Gérard. Il y prépare avec Geffrard la stratégie de la guerre de libération du Sud.
Le 4 août, Jérémie est conquise par Férou. Le 4 septembre, Gabart rentre à Saint-Marc. Le 9 septembre, Toussaint Brave occupe Fort Liberté. Le 17, Jacmel tombe aux mains de Magloire-Ambroise. Gérin se rend maître de Lensaveau. Le 11 octobre, après 3 semaines d'un siège éprouvant, l'armée indigène, tout drapeau déployé, fait son entrée à Port-au-Prince par les portails de Turgeot, de Saint-Joseph et du Montalet. Le 17 octobre 1803, Geffrard occupe les Cailles.
À cette date précise, le bilan de la domination française est simple à Saint-Domingue. Rien dans le sud, rien dans l'ouest.
Et dans le nord, les Français tiennent encore le Mol Saint-Nicolas et le Cap.
Il fallait prendre le cap. Rochambeau s'y trouvait avec les dernières forces expéditionnaires de Leclerc et tout le matériel de guerre. Le cap, camp retranché de la présence coloniale, le cap, cœur du pays.
il fallait prendre le cap. Dessalines avait le choix entre deux stratégies. Un siège en règle, long, déprimant, dissipateur de force, ou une action rapide, musclée, au pas de charge, vive et définitive. L'assaut final, la bataille éclair, le coup de massue qui jette l'adversaire au tapis. Souvenons-nous que devant Port-au-Prince, le siège avait duré 3 semaines. 3 longues semaines éprouvantes pour l'impatience révolutionnaire des chefs et des troupes. Dessalines avait hâte d'en finir. Et à l'aube du nouvel an, offrir à son peuple l'indépendance.
Dessalines choisit l'action rapide, la guerre éclair. La décision était grave, car rarement auparavant, cette guerre de partisans, cette guerre de brigands, pour citer les officiers de Napoléon, avait abouti à des affrontements en rase campagne, mettant aux prises d'importants corps de troupes.
Dessalines, Pétion, Christophe, Clairvaux, Geffrard, Capois, Magloire-Amboise avaient découvert et appliqué, tout seul et longtemps auparavant, ces règles de la guerre révolutionnaire qui devaient, 200 ans plus tard, être les guides d'autres chefs populaires dans le monde entier. Lénine, Mao Tse-tung, Che Guevara, Ho Chi Minh, Diap, Castro, Amilcar Cabral, Boumédienne ou Charlemagne Peralte. Mais le temps était venu d'une stratégie globale, prenant la relève de la guerre de partisans. La décision n'était pas sans risque. Le cap était bien défendu.
Rochambeau tenait le cap. 30 000 habitants, des milliers de blessés dans les hôpitaux, des hommes, des femmes, des vieillards à protéger. 5 000 hommes de troupes, parmi les meilleurs de l'armée expéditionnaire, et qui prouveront leur valeur et leur courage sous le feu des indépendants. Une ligne de fortification qui prolongeait les défenses naturelles de la ville, un arrière-pays tenu par les Congos fidèles à la France, et surtout, ce courage de Rochambeau, cruel administrateur, mais guerrier et chef militaire valeureux. Enfin, l'ennemi traqué était acculé, le dos à la mer, bloqué par les navires anglais.
Quelles étaient les chances de Rochambeau? Pourquoi a-t-il attendu l'assaut final? Traqué comme le loup dans sa tanière, affamé par les harcèlements de Romains, lequel, rappelons-le, détruisit le marché de la petite anse que les Congos approvisionnaient en viande, en légumes, en grains et autres denrées alimentaires. Pourquoi Rochambeau n'a-t-il pas décidé de faire retraite vers la partie de l'Est pour la jonction avec les troupes de Ferrand?
C'est qu'il fallait une longue marche en pays ennemi, tenue par les indépendants, qui rendrait la vie dure à ses soldats, mais surtout à la cohorte de civils, 30 000. Vieillards, femmes, enfants, invalides, qu'il faudrait traîner après soi. Une aventure au risque incalculable. Tandis que, retranchés au cap, bien défendus, les indigènes, les brigands, n'oseraient peut-être pas se risquer. Et puis qu'ils viennent et ils se casseront les dents. Peut-être, on pourrait gagner du temps. La guerre avec l'Angleterre ne durerait pas, qui sait. Alors les renforts pourraient à nouveau arriver. Et alors, la reconquête sur les brigands. En Guadeloupe, en Martinique, Richepanse n'avait-il pas réussi?
Il fallait défendre le cap.
Le cap était bien défendu. Protégé à l'ouest et au nord par les hauteurs naturelles du haut du cap et de Morne Rouge, dominé par le fort La Vigie, au sud, les Français avaient fortifié les positions de Bréda, Pierre-Michel, Belair, Gento, Destin, Charrier et Vertière.
Pour prendre le cap, Dessalines mit au point un plan simple, clair, lumineux, génial. Concentrer 27 000 indigènes contre 5 000 Français. Faire diversion au nord et à l'ouest. Christophe et Romain, par une escalade inattendue de l'ennemi, attaqueraient la Vigie et la bande du nord et maintiendraient un rideau de troupes immobilisant quelques corps français rendus ainsi indisponibles sur le front sud. Celui-ci subirait une percée de capois, devant foncer à toute allure vers la barrière bouteille, tandis que le gros de l'armée affronterait les fortifications et Clairvaux prendrait le fort Bréda.
Ce jour-là était un jour comme les autres pour les Français du camp retranché. 26 Brumaire, an 12. Il fait encore nuit sur le cap. Une nuit plutôt brumeuse. L'on se doute bien de quelque chose, car hier, on a vu Dessalines s'approcher imprudemment des fossés de Bréda. Une volée de mitraille lui en a interdit l'accès. L'on se doute bien de quelque chose, mais dans les casernes... Le 18 novembre, à 4 heures du matin, on claironne la Diane au camp français. Rochambeau surpris.
Mon général, les brigands ont attaqué sur deux fronts.
D'où viennent les coups de canon? Du haut du cap? Faites venir les bataillons qui tiennent la vigie et n'y laissez qu'un rideau de troupes.
Non, mon général, les brigands sont aussi devant la vigie. En fait, ils menacent dangereusement ce fort. Les premiers boulets sont tombés rue des Boutiquiers. Nos estafettes nous ont signalé de fortes concentrations devant Bréda.
Sonnez le rassemblement de ma garde d'honneur. En selle, messieurs, en selle. Nous allons faire décamper ces brigands ou je ne m'appelle pas Rochambeau. Sait-on où est Dessalines?
Dessalines tenait quartier général à Lenormand-Mézy, non loin du Morne Rouge. Son poste de commandement mobile gardait la liaison avec le front des troupes de Clairvaux. Clairvaux recevait les premiers coups de boutoir de l'artillerie française. Le soleil levant éclairait une bataille en pleine action.
Charlotin!
Oui, mon général.
Comment ça? Ben, venez à quand j'ai boulé.
Mon général, pièce qu'on offre Pierre-Michel a appelé des mitrailles toutes nous, oui. C'est ravage à faire un soldat.
Charlotin, fais bloquer, Capois!
Capois filé direct sous barrière bouteille avec 9e, 7e, 14e de brigade, oui, mon général. C'est pour me voler d'irrité?
Coutez ça, moi, dis, petit garçon. Bah, Capois, l'autre, casser tête tournée. C'est pour Capois dégager la toute force couraille, pour nous prendre Timon, ça, Timon, si là, là, on va regarder là.
Bichard, y'a mon général.
Nous coulons le Charlie. C'est pour le dresser deux gros pièces, quatre. C'est pour le tirer rouille sous Vertier. C'est Vertier pour nous prendre. C'est Vertier qui commande toute manœuvre là.
Il existait au centre du plateau un ravin qui traversait en face du fort Vertier un petit pont à moitié brisé. Entre ce pont et le fort s'élevaient les barricades au-dessus desquelles avaient été braquées contre l'armée indigène quatre pièces de canon. Pour atteindre Charrier, Capois devait, en longeant, passer sous le feu de la batterie de canon.
En avant, camarade Moyo! En avant, soldat! Le vieux de brigade en ouais! Kembe, palagé! Petite Moyo! Frémio, en ouais! Vous laissez la poussière, garçon. Dans un moment. Dans un papa. Qu'est-ce que tonnerre. C'est pour une foutre pour un but de en fin de nuit. Oubliez, général Dessalines, côté sous nous. Tout le monde vient à côté sous nous.
Quand Capois arriva vis-à-vis du pont, il fut accueilli par un feu si vif que les soldats des 9e, 7e et 14e qui formaient son avant-garde chancelèrent. Les grenadiers de la 9e de brigade s'élancèrent avec rage au devant de la mort. Mais l'artillerie française, bien servie, les culbuta par de vives décharges.
Charlotin, comptez Charlotin. Charlotin baille l'autre pour 3e, 11e, 20e de brigade à le secourir Capois.
Mon général, 20e de brigade là, c'est réserve nous, il y est.
Commandant Charlotin, pas discutable. Fais ça, m'dou là. Faut nous crabiner, dit Ponsi là là. Faut nous prendre
La bataille faisait rage au pont de Vertière. Capois ramenait ses soldats au combat, aidé des renforts envoyés par Dessalines. En avant, en avant! Un boulet renverse son cheval. L'intrépide général tombe, mais se relève aussitôt.
Bravo, bravo! Ah, général Rochambeau, ces brigands ont du nerf, ils ont les couilles! Vous avez vu ce chef noir, mon général?
Oui, adjudant, j'ai vu. Ces brigands sont des héros. Faites cesser le feu et envoyez un de mes hussards complimenter cet officier noir. Le panache, mon cher, le le panache. Nous nous battons avec panache.
Le capitaine général Rochambeau envoie son admiration à l'officier général qui vient de se couvrir de tant de gloire.
Ça dit là, hein, moi pas attendez, ça blanc français a dit. Vous comprenez, monsieur?
Pas coupé, non. Pas ça français la palais. On a pas. C'est pour nous quoi, bon? Et là, ben, non. Là, ben, ouais. Ablié général Dessalines, comptez sur nous. En avant.
Le général en chef comprenait que malgré les prodiges réalisés par Capois, il ne pourrait prendre la butte de Charrier. Vertières resterait ainsi aux mains des Français, bloquant la route du Cap à Capois. Dessalines comprenait que les fruits de cette journée seraient perdus pour lui.
Aïe, Gabin, où est-il planton ça?
Planton Charrier, général de...
Oui, Gabin, écoutez bien ça, ma pote. Faut que drapeau nous flotter sous lit avant nous être la tombée.
Mon général, avant de river Charrier, tout canopé d'appuyer Michel Akvetchev va cabiner soldat.
Général Gabin, moi, je voulais pour nous prendre planton Charrier. Nous mettons perdu numéro après numéro. Tout quoi la main nous, yo, c'est pour drapeau nous flotter sous Charrier.
Nous avions depuis plusieurs mois désarmé la butte Charrier.
Général Rochambeau, il est clair que les Noirs veulent atteindre Charrier. Tous leurs efforts se portent vers ce point non fortifié.
C'est folie de vouloir l'atteindre. Les forts Pierre-Michel et Gentot concentrent leur feu sur la route. Voyez, nous repoussons leur nouvelle attaque.
Bon général, nous les repoussons. Devons-nous leur mettre l'épée dans les reins et sortir ces Noirs des fossés?
Un escadron de dragons pour les débouter, nettoyer la place. Les Français, voulant anéantir la colonne, dirigent contre elle tous leurs coups. Des lignes entières de soldats indigènes sont enlevées. Mais la colonne avance au pas de charge, sans être ébranlée, fière, au milieu de la mitraille, des boulets et des balles.
Un charlatan ! Aïe, charlatan ! Où est-ce à moi, hein ?
Oui, mon général ! Drapeau noir a flotté sous Big Charrier ! Oui, mon général, nous prions!
Rêtez la charlotin! Pas courir vos chat là, vont douiller! On suit manœuvre au chambou. Où est-ce que le chambou a fait? L'a cassé tête tout net. Bien Lyon 1, voyez renfort sous Charrier. Mais, rêtez, c'est quand nous avons besoin là. Côté Clavo, prends 6e demi-brigade là. Allez renforcer Gaba avec Jean-Philippe Do. Voyez 2 pièces 4 sous but là. Un seul manœuvre au chambou a fait. Écoutez bien, oui? Les cacoubés capois sous route au cap là. Voyons que 16 pour capois, c'est pour le dégager le coup qu'on est pour le crambiner, yo!
Sur le sommet étroit du tertre de Charrier étaient réunis les 4e, 6e et 10e demi-brigades. Quatre généraux soutenaient le courage des soldats que foudroyaient sans cesse les canons de Vertières. Un espace de 200 pas s'étendait entre ces deux positions. Le général Clairvaux, armé d'un fusil, sortait souvent des rangs, malgré les instances des soldats, pour envoyer la mort aux Français. Gabart et Jean-Philippe Do excitaient l'admiration des soldats par leur sang-froid. Les boulets et les bombes avaient écrasé la maison de Charrier. Il n'y avait plus aucun abri contre les bombes. Clairvaux ordonna à ses soldats d'élever des monticules contre les projectiles. Le général Jean-Philippe Do sortit aussitôt des rangs et traça, avec la pointe d'une baïonnette, la ligne des retranchements sous des milliers de balles qui pleuvaient autour de lui. Un caisson sauta dans l'enceinte de Vertières.
Quittez le fort !
Soldats, quittez le fort !
Quittez le fort !
Sortons ! Non, ce n'est rien !
Sauf qui peut, ça saute !
Non, ce n'est rien, ce n'est qu'un caisson ! Ça saute !
Ça saute !
Le premier qui bouge, je lui saute la cervelle ! En général, couvrez-vous à droite!
C'était la confusion dans le fort de Vertières. Dessalines voulut en profiter.
Charlotin, garde un bagage. Blanc français gagné dans Vertières, couvert. Ou pas t'as dit chat qui perdit ni chaud. Ou quand t'en as fait? N'a pas marché sous le cap toujours. N'a pas entré sous yo.
Colonel Paul Pouron, au rapport.
Colonel Paul Pouron, prends 2 escadrons cabrali. Nèg porte rail, nèg vent, yon la tibonite yo. Nèg courail. Prends commandement yo. Balé ou zé ou de cap la, m'pavle ou yon sel blanc sou ou de cap la, marché sous Vertières. Où est-ce que tu Rochambeau prend un bel jour. Tout faible en avait y a bon rien. Ou bien, ou a perdu tête pas.
Un escadron sortit du quartier général avec le colonel Paul Pron à sa tête. Nos dragons vinrent expirer contre le rempart de fer et de feu formé par les Français. De nombreux chevaux remplissaient le ravin du côté du pont brisé près de la barrière de Vertières. Paul Pron rallia ses cavaliers et se précipita contre le carré avec une si vive impétuosité que les Français furent ébranlés. Mais les Salines n'étaient pas satisfaits.
Le colonel Dominique, vous êtes baptisé dans la Tibonie. C'est ça que fait de ouéter bataillon en ami. Mais Kounia, rangez ça fort bien. Ma baoule encore. Mettez garçon sous.
Le jeune chef de bataillon se précipite alors sur les Français, pousse son cheval jusque sur les baïonnettes et reçoit une mort glorieuse dans les reins ennemis. Les dragons, animés par l'exemple de Paul Pron, attaquent le carré avec une espèce de rage. Des chevaux se cabrant sur les baïonnettes, de la première ligne, ouvrent un passage et les Français, mis en désordre, rentrent dans le fort rempli de fumée. Rochambeau réalisa qu'il lui fallait reprendre la butte charriée. Vertières était sous les feux croisés.
Adjudant Boyer, faites déloger ces brigands de la butte charriée.
Oui, mon général, mais la réserve.
Faites donner ma garde personnelle et balayez-moi ce plateau avant la nuit.
Mais la rage du chef français ne pouvait rien contre la détermination des indigènes. C'était déjà la fin du jour. C'était déjà la pluie sur Vertières. Dessalines s'était rendu sur la butte charriée saluer les vainqueurs de la journée. Gervaux, Gabart, Jean-Philippe Daud entouraient le général en chef et les soldats l'acclamaient.
Petit garçon, moi, ça qui arrive avec vous.
Une boulette canot, rachez les épaulettes gauche, oui, mon général.
Ça qui voulait dire, Clève, vous gonsez les épaulettes, même gens avec un capitaine. Donc, boulette la dégradé. Mais moi-même, je dis, général de Saline, moi fais Clève, capitaine, tout général, moi, yo. Clève, c'est vous-même qui chef, toute l'armée, moi, yo. Non, messieurs, non! Faut nous pas oublier, garçon portrait ici là, qui pape boulette blanc français. Yo. C'est pour nous aller. Vive Général Capoua!
Vive Général Capoua! Vive Général Capoua! Vive Papa de Saline! Vive Papa de Saline!
Soleil. Leti bonito yo we. Shango, la ti bonito rele. Shango, moi pas venu ici. Dumbbell.